Kinshasa, province de Kinshasa, au moins 4 attaques dirigées contre des symboles de l'État ont été perpétrées en l'espace de 2 mois dans la capitale par des hommes non formellement identifiés. Le dernier cas remonte à vendredi dernier où des inconnus ont attaqué le marché central et tué l'administrateur ainsi que son garde du corps. Quelle analyse faire de cette situation? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 17 juillet 2017. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat professeur Jacques Ndjoli, sénateur et inspecteur général du MLC. Il est vice-président de la commission défense, sécurité et surveillance des frontières au Sénat. Professeur Ndjoli, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly.
Joseph Kongolo, analyste politique. Bonsoir Monsieur Kongolo.
Bonsoir Madame.
Et André Atunduli Ongo, porte-parole de la majorité présidentielle. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Hugues Maoula de Kinshasa. À chaque attaque, il y a au moins un ou deux assaillants qui sont appréhendés. On attend toujours leur procès. Comme d'habitude, silence radio. Merci de nous suivre à Kinshasa sur la 103.5. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Insécurité à Kinshasa. Au moins 4 attaques des symboles de l'État ont été perpétrées en l'espace de 2 mois dans la capitale par des hommes non formellement identifiés. Bien que la police attribue souvent ces attaques qui causent des dégâts corporels et matériels importants à des bandits, certains observateurs par contre les qualifient de terrorisme urbain qui prend corps dans la ville de Kinshasa, non seulement en se déplaçant d'une commune à l'autre, mais visant surtout beaucoup plus les symboles de l'État. Innocent Olinga revient sur ces attaques.
La première attaque est perpétrée le 17 mai dernier sur la prison centrale de Makala, causant la mort, d'après le gouvernement congolais, d'une dizaine de personnes, dont 4 policiers et des dégâts matériels très importants. Alexis Thambwe Mwamba, ministre de la Justice, attribue cette attaque qui a aussi occasionné l'évasion de plus de 3000 détenus aux adeptes de Bundu Jamayala du député national Nimwanda Dansemi. Le samedi 10 juin, 2 attaques sont dirigées simultanément contre les parquets des grandes instances de Matete et les bureaux de la police du district de Moamba. Bilan, 2 personnes mortes dont une policière, 17 détenus évadés et des bâtiments et des véhicules incendiés. Les assaillants ne sont pas formellement identifiés. Le 29 juin, le commissariat de la police situé près de la maison communale de Kalamu est aussi attaqué par des hommes armés dont l'identité n'est pas connue. Là, des policiers sont blessés et l'un d'eux, garde du corps du bourgmestre, succombe de ses blessures. Des véhicules sont aussi incendiés. Le 14 juillet, c'est le marché central qui est attaqué par ces hommes toujours non identifiés. L'administrateur de ces marchés et son garde du corps sont tués crapuleusement. À voir la trajectoire de ces attaques, on constate qu'elles sont parties de la commune de Selembao, en passant par les communes de Matete et Kalamu, pour atteindre finalement la Gombe, centre des grandes institutions étatiques.
Merci Innocent pour tous ces détails. Suite à cette situation, Radio Okapi a fait réagir le responsable de la sécurité dans la ville de Kinshasa. Écoutez, l'inspecteur provincial de la police, Célestin Kanyama, joint au téléphone par Billy Yvon Lutumba.
La population peut se calmer et faire confiance à la police puisque nous avons reçu les instructions de la hiérarchie pour que toutes les mesures sécuritaires soient renforcées pour que la population vague librement à ses occupations. Que ce soit les édifices de l'État, que ce soit les marchés, je crois que nous avons renforcé des mesures sécuritaires, c'est ce qui est le plus important, c'est ça. Je crois que la population doit également nous aider avec les informations. Si vous voyez un mouvement suspect quelque part ou les gens suspects également, il faut alerter directement la police.
Pour revenir au cas du marché central, les marchands ont fustigé le fait que l'intervention est arrivée plus de 40 minutes après. Les services de renseignement qu'on appelle bureau 2, on ne les a pas vus quelque part quand ces gens étaient en train de se retirer du marché.
Mais nous tous, que ce soit la population, que ce soit nous-mêmes, nous devons jouer aussi à ces services de renseignement. Nous devons informer les services de l'État à prendre les malfrats en charge à temps.
C'était la Célestin Kanyema, responsable de la sécurité dans la ville de Kinshasa. Professeur Jacques Ndjoli, je rappelle que vous êtes sénateur et inspecteur général du MLC. Vous êtes vice-président de la commission défense, sécurité et surveillance des frontières au Sénat. Comment vous analysez cette situation? 4 attaques en l'espace de 2 mois dans la ville province de Kinshasa.
Merci beaucoup, madame. Avant toute chose, je voudrais présenter mes condoléances aux familles endeuillées. Je songe ici particulièrement à madame Chantal Mombi, qui est une de mes anciennes étudiantes et qui est très proche, n'est-ce pas, de sénateur Ekombe, avec qui nous partageons les mêmes soucis de protéger la population. Au-delà de madame Mombi, ce sont ces policiers sauvagement blessés qui ont été transportés dans des conditions inhumaines et dont les images ont été véhiculées sur les réseaux sociaux, parfois sans respect de la dignité humaine. Mais au-delà de cela, de cette douleur, madame, vous avez parlé des 4 attaques, mais nous sommes dans une série d'attaques. Pratiquement, lorsque j'écoute les reportages de votre collègue, mais c'est Kinshasa qui est aujourd'hui attaqué, mais c'est à l'est, c'est chaque jour qu'il y a qu'on kidnappe de prêtres. Des entreprises sont fermées parce que leur personnel national comme expatrié n'est plus en sécurité. Il y a quelques années, on parlait des 38 groupes armés. Aujourd'hui, on en a plus de 80. Des Mai Mai, Mazembe, des Nduma Force, le territoire des Fizi est en feu. Et si vous quittez le Nord Kivu, le Sud Kivu, au Nord Kivu, depuis plus ou moins 20 ans, on parle de groupes non autrement identifiés qui saccagent, qui violent. L'Ituri, c'est la même chose. Les FRPI a repris du travail. Le Haut-Ouélé, les LRA sont là. Où est-ce qu'il y a encore? On a au sud, le Pygmé et les Batous sont en train de se massacrer. Je ne parle même pas de la situation au centre avec les Kassai, où on a plus ou moins 2 millions de déplacés. Donc on a plus de déplacés qu'en Irak. De nombreux réfugiés à l'étranger, notamment en Angola. Et si vous voyez les provinces du Kwilu et de Lualaba reçoivent aujourd'hui des milliers et des milliers de personnes déplacées venant l'espace de ces foyers. Et maintenant, nous sommes à l'ouest, à Kinshasa, mais il y a Mbandaka il y a quelques semaines où l'insécurité a poussé la population à défendre. Donc nous sommes dans une situation des non-États ou d'un État qui a démissionné, incapable d'assurer la sécurité de ses citoyens. Première mission d'un État. Deuxième élément, les capacités ou les suffisances de la gouvernance sécuritaire. Madame, lorsqu'on voit les forces qui sont déployées lorsqu'il y a des manifestations politiques et la situation de précarité sécuritaire en plein centre, en plein capital. On attaque la prison, on libère 3000 personnes. Et on continue à nous dire, ce sont des personnes non autrement identifiées. Ou alors, c'est l'incompétence, c'est-à-dire on ne sait pas identifier. Ou alors on connaît. Et à ce moment-là, nous sommes dans un chaos instrumentalisé. Ce n'est pas possible qu'un État qui a pour mission principale la protection de ses citoyens ne puisse pas dire, comme a dit un des intervenants, qui sont les assaillants. Et lorsqu'on lui propose le concours des experts internationaux, on hésite. Donc, les responsables de la sécurité de la ville appellent la population au calme.
À collaborer avec la police.
Mais pour quelle finalité? Lorsque les patrouilles de la police se transforment très souvent au moment des tracasseries, il n'y a plus de confiance. déficit de confiance dans les institutions qui ont une légitimité totalement entamée, déficit de capacité de services de sécurité multiples, ANER, police et autres forces qui sont déployées et qu'on voit très souvent dans les manifestations politiques. Et voilà, madame, le tableau malheureux dans laquelle dans lequel notre population vit. Alors donc c'est double déficit, déficit de la gouvernance globale en termes de légitimité, déficit des capacités et des gouvernances sécuritaires qui sont les deux éléments structurants de notre insécurité globale et généralisée.
Est-ce que le patron de la sécurité n'a pas raison de demander à la population de pouvoir dénoncer pour, comme il a dit lui-même, pour pouvoir pour qu'il prenne les malfrats en charge à temps?
Madame, vous savez, dans toutes les écoles militaires, la première des choses qu'on va vous apprendre, c'est la construction de la confiance entre l'armée et le peuple. C'est ce qu'on appelle les relations civilo-militaires. Aujourd'hui...
Vous pensez qu'elle n'existe plus, cette confiance?
Mais quand on rencontre une patrouille de la police la nuit, on sait déjà qu'on va perdre son téléphone, on sait déjà qu'on va perdre son argent. Et lorsqu'on rencontre de barrages, ça ressemble beaucoup plus à des tracasseries. Donc il y a une problématique profonde de ce qu'on a toujours parlé de la réforme de la sécurité pour que l'armée, la police et les services de sécurité sachent que ils sont au service de la population et non d'un pouvoir.
Merci.
Et cette sécurité personnalisée, confisquée par les institutions au profit de la population, crée, n'est-ce pas, une insécurité générale.
Merci, professeur Njoli. Ondrala Tundu, porte-parole de la majorité présidentielle. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Comment vous analysez la situation qui sévit actuellement dans la ville-province de Kinshasa? 4 attaques en l'espace de 2 mois.
Bah, c'est un défi. C'est un défi, c'est que probablement, il y a un élément sécuritaire non conforme qui s'est introduit dans notre vie et donc les autorités doivent prendre des mesures qui s'imposent pour que cette situation soit sous contrôle. Et comme vous le savez, ce genre de situation, aucun État, je suis tenté à le dire, n'est en mesure d'arriver à un risque zéro.
Mais il y a quelque temps, on ne connaissait pas ce phénomène. Monsieur Atundu, comment on peut expliquer cela?
Mais c'est pour cela qu'il faut attendre que les autorités compétentes chargées des investigations nous disent quelle est la cause, la source et les motivations de ce genre de comportement.
Il faut attendre qu'il y ait combien d'attaques pour qu'on nous dise finalement c'est qui attaque.
Non. Dès lors qu'il y a eu la première attaque, eh bien, les investigations ont commencé. Mais quant à connaître la motivation, ce n'est pas le premier jour. Et en plus, la divulgation des éléments qui pourraient gêner l'évolution des investigations et de recherches, il faut tenir compte de cet élément. Et donc, les investigations, dans ce cas, ne doivent pas répondre aux exigences de la transparence démocratique, de la transparence médiatique pour l'efficacité des résultats.
Le professeur Njoli a parlé des défaillances des services de sécurité.
Un excès de langage. C'est un excès de langage. La défaillance de services de sécurité, je vous ai dit, aucun pays au monde ne peut prononcer, déclarer que chez lui, il y a un risque zéro. Et donc, ce qui est important, c'est que les forces de l'ordre réagissent et n'abandonnent pas leurs responsabilités. La population n'est pas abandonnée à son triste sort. Et souvent, vous savez, dans l'heure ou les heures qui suivent, ces éléments sont mis en débandade et les forces de l'ordre reprennent, n'est-ce pas, les dessus. Et à cause de cela, il y a de plus en plus de mesures, des barrages, comme le dit le professeur Njoli.
Qu'est-ce que ça donnait comme résultat?
Mais il faut poser à ceux qui détiennent le tableau du résultat général. Je crois qu'il faut éviter de considérer tout en fonction de l'intérêt médiatique. L'intérêt sécuritaire dans les investigations est beaucoup plus important parce qu'il y va de la vie de chaque citoyen, il y va de la vie de la communauté.
Alors vous dites qu'on attend les résultats des autorités, mais depuis l'évasion des Makala, on nous a promis les résultats, jusqu'à aujourd'hui on n'a toujours rien.
Mais c'est ce qu'on cherche, on continue. Cela ne... Non, publier les résultats est différent de ne rien avoir. Pour publier les résultats, les autorités doivent se décider s'ils le font au fur et à mesure ou s'ils le font une fois qu'ils auront jugé avoir assez d'éléments pour maîtriser la situation et le mettre à la portée de nos populations.
Le général Kanyama demande à la population de collaborer avec la police. Le prof Joly estime qu'il y a une crise profonde de confiance entre les services de sécurité et la population.
En tel cas, dans tous les pays du monde, on fait appel à témoins. Un appel à témoins ne signifie pas rupture de confiance. Au contraire. Et aujourd'hui, il y a des citoyens qui vont dénoncer. Voilà, voilà, voilà. Et les faits valant mieux que les arguments, je crois que ces faits-là détruisent complètement les affirmations du professeur.
Est-ce qu'on ne peut pas éviter ce genre de situation, monsieur Atundu?
Aucun pays au monde ne peut prétendre avoir un risque zéro pour ce cas de situation. Parce que, en principe, si l'on voudrait avoir un risque zéro, eh bien, il faudrait un régime autoritaire. Il faudrait un régime dictatorial où on va prévenir et agir sur les intentions des gens et beaucoup plus grave, sur la présomption des intentions des gens. Alors, nous sommes dans un régime démocratique, c'est un régime... comme l'a dit, je crois, Winston Churchill, c'est pas parfait, mais c'est quand même un régime qui permet de sauvegarder l'essentiel, c'est-à-dire la liberté d'expression et la convivialité républicaine.
Alors, le professeur Njoli a essayé de brosser tout à l'heure un peu la situation sécuritaire à travers le pays. Les attaques, c'est pas seulement à Kinshasa, c'est aussi dans les restes des provinces. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, monsieur Atundu?
Non, le professeur Njoli a présenté une situation partiellement. Parce qu'il n'a pas dit quelles sont les mesures qui ont été prises face à cette situation et quels sont les résultats. Donc, ici, le professeur Njoli a présenté une thèse qui n'a pas développée et qui n'a pas été conclue.
Il a pas... Nous a dit qu'on allait renforcer les mesures de sécurité, mais apparemment, ces mesures qu'on renforce ne donnent pas des résultats positifs.
Ah bon? En tout cas, je sais que au Kivu, l'intensité de ces attaques a baissé et que ne donnons pas l'impression que nos populations sont abandonnées en elles-mêmes. Ne donnons pas l'impression que nous ne savons pas apprécier le sacrifice de nos citoyens, de nos militaires et de nos policiers qui donnent leur vie pour qu'il y ait moins d'attaques et pour qu'il n'y en ait plus du tout au bout du compte.
Merci, monsieur Atundu Joseph Kongolo. Vous êtes dans la liste politique. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation?
Bien, merci beaucoup, madame. Je salue mes aînés. Je voudrais aborder ces sujets, n'est-ce pas, sur deux plans. D'abord, le contexte général. Je crois que l'ensemble de toute cette résurgence d'insécurité sur l'ensemble du pays dérive, et je lui dis, ce sont des éléments qui dérivent de l'illégitimité des institutions après l'expiration du mandat du président de la République. Donc, cet élément, je crois que le professeur l'a souligné, cet élément a essayé d'éclipser en quelque sorte toutes les énergies internes qui caractérisent, n'est-ce pas, la puissance souveraine d'un État. Et c'est comme ça que les gens croient qu'il n'y a pas effectivement des services de sécurité, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des évasions et des attaques dont il est question aujourd'hui, ce sont des attaques folkloriques et parfois festifs. Nous les avons vus. Ce sont des gens, on dirait, des gens qui quittent le stade. N'est-ce pas? 4000, 3000 personnes sur la rue et imaginez, penser qu'il n'y a pas de services de sécurité qui sont au courant, c'est des choses un peu difficiles à croire. Donc, ce sont des évasions, ce sont des spectacles, en fait, ce sont des spectacles qui sont festifs et folkloriques. Et ça, ça nous pousse un peu à réfléchir un peu plus long pour comprendre.
Vous pensez que c'est entretenu?
En quelque sorte. En fait, ça donne l'impression d'être provoqué, entretenu et maîtrisé. Ça, c'est la première chose. Et sur le plan politique encore, on est en train de comprendre toujours à partir du contexte politique dans lequel nous sommes aujourd'hui, que il y a ce que le professeur a dit, cette incapacité du régime qui est née d'abord de la guerre, qui vit de la guerre, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous vivons dans une situation de guerre. Depuis que le régime Afdel est là, nous vivons dans une situation de guerre. C'est-à-dire, c'est pas une situation forcément de guerre, c'est pas une situation... nous vivons dans une situation de guerre. Et ce régime est né de cette situation, vit dans cette situation, et là, cette incapacité à sortir de cette situation, à s'émuer en un régime de pacification et de consolidation de la paix. Là, cette incapacité saute clairement aux yeux de tous, aujourd'hui, de tout observateur attitré. Deuxièmement, l'autre impression que cela donne, c'est que le régime veut transformer la situation politique actuelle en situation militaire. C'est-à-dire que la situation politique étant devenue difficile, il n'y a pas de soupape de sécurité, c'est-à-dire des échappatoires, des points où on peut se refaire, on transforme la situation politique en situation militaire pour trouver des issues. C'est-à-dire, on bloque pratiquement l'État, on bloque l'État, et en créant le désordre généralisé sur l'ensemble du pays, on trouve une issue pour imposer un état de siège, un état d'urgence, n'est-ce pas? Et l'État tente de récupérer le pouvoir.
Comme l'a proposé la Ligue des Jeunes.
Par exemple, nous savons que c'est dans une logique. C'est dans une logique. Donc ce n'est pas par hasard. C'est dans une logique. Donc on trouve des soupapes de sécurité. Tout simplement pour essayer de récupérer le pouvoir, l'imposer autrement et atteindre leurs objectifs politiques. Parce qu'en fait, toute action politique a un objectif. Troisièmement, le régime semble s'imposer comme un liquidateur. Comme un liquidateur d'un ordre politique et constitutionnel actuel. Parce que c'est ça le nœud du problème, en fait. On se cache pas la voix, on se cache pas la face. C'est-à-dire que le régime apparaît comme un liquidateur de l'ordre politique et constitutionnel actuel. Et il faut passer par toutes sortes de mystifications, de subterfuges, pour pouvoir atteindre cet objectif. Ce sont les impressions qui sont difficilement réfutables, madame. C'est difficilement réfutable. Donc, pour quelqu'un, un observateur attitré, il voit clairement que ça saute aux yeux. Ça, ce sont des éléments d'ordre politique. Effectivement, dans la suite, on pourra peut-être ajouter d'autres éléments. Sur le plan technique, regardez notre police, madame. C'est vrai, la police fait son travail et tout ça. Vous savez, une police qui perd les armes, qui perd de faire son travail en temps de pas de guerre en fait, en temps de subversion, c'est une police qui n'est pas aguerrie. Une police n'est pas appréciée quand elle agit en temps de paix, en temps de pacification totale. C'est quand il y a des situations de ce genre qu'on constate effectivement qu'il y a beaucoup de choses à faire dans notre police. Vous vous rappelez, jadis, nous avions vu une police communale et tout de suite elle s'est muée en police nationale. Ce sont des gens qu'on a ramassés, enfin, pour certains, pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens quand même qui n'ont pas passé, qui ne sont pas passés par la formation à proprement parler. Et aujourd'hui, il suffit tout simplement de voir quelqu'un avec une bandelette rouge sur la tête. Il enlève la tenue et il s'enfouit. Voyez-vous? Donc, je suis en train de comprendre que sur le plan technique, c'est une police, en général, n'est-ce pas, qui n'a pas été formée ou qui...
Ça veut dire que la réforme des services de sécurité n'a pas marché, ça a été un échec?
Disons que ça n'a pas atteint les objectifs. Ça n'a pas vraiment atteint les objectifs. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous avons la police qui évolue dans ce qu'on appelle MROT, c'est-à-dire, tout simplement, c'est le maintien, le rétablissement et l'ordre de la paix. Tant là que l'armée, elle... n'est-ce pas? Et dans la DTN, c'est-à-dire la défense tout simplement du territoire national. Mais on sent que les deux corps semblent ne pas être à la hauteur de leur tâche. Est-ce que cette maladie vient-elle du système politique? Vient-elle des aspects techniques internes? Ou encore, c'est de l'environnement politique général, n'est-ce pas, qui semble, n'est-ce pas, influer
merci,
assez négativement
Joseph,
sur l'ensemble de ces, le fonctionnement de ces corps.
Merci, Joseph Kongolo. Professeur, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani, dans la province de la Tchopo.
C'est Marie-Paul Awa depuis Kisangani. Tout ce sabotage démontre la faillite de l'État congolais. Son système politique n'est plus supportable par la population. Par conséquent, tous les services publics de l'État sont en désintégration totale. La solution est donc la refondation totale de l'État congolais pour ainsi arrêter toutes les atrocités. Toutefois, cette refondation peut être supportable que si elle est orientée vers le bien-être et l'amélioration des conditions de la population.
Alors cet auditeur aborde un peu dans le même sens que vous.
Mais il faut être, monsieur Atundu Liogo, pour croire que nous sommes dans un excès de langage. Vous savez, lorsque on est dans l'illusion de l'irréalisme, on entre dans une forme d'autisme qui empêche de voir la réalité. Voilà que ces citoyens nous l'ont dit. Que nous sommes dans un schéma qui dit de sabotage. Moi, je parlais d'instrumentalisation politique d'un système qui est désintégré. Monsieur Atundu était publiciste. Il sait que le socle, le fondement d'un État, la capacité, l'efficience des institutions sont tributaires de leur légitimité. Et lorsque vous prenez même notre constitution, on dit, depuis notre indépendance, à l'exposé motif, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité. Aujourd'hui, toutes les institutions sont fait mandat. Nous avons choisi un cadre conventionnel, l'accord du 31 décembre 2016, pour résoudre la crise. La famille politique de M. Atundu a remis en cause totalement ses structures pour se fourvoyer dans des arrangements de particuliers. Et aujourd'hui, nous sommes dans une crise. Nous sommes dans l'incertitude. Et c'est cette incertitude qui crée la fragmentation sociopolitique. L'armée, la police, l'administration sont sans repère. Alors, il parle de démocratie. Non, on est dans le fourvoyement de la démocratie et il sait comme moi que lorsqu'on entre dans ce système, il a vécu, c'était un haut fonctionnaire de sécurité, on entre dans les pillages, dans les désordres. On a vécu ça et ils ont intérêt à expliquer à ceux qui sont venus que nous sommes passés par là, n'est-ce pas, avec le régime Mobutu qui n'a pas compris. Donc aujourd'hui, la réponse globale, c'est que notre ami Congo l'a parlé, le contexte, c'est de rentrer dans un contexte de régularisation des institutions à travers la publication d'un calendrier électoral consensuel, réaliste, pour que nous puissions sortir de la crise de légitimité. Et deuxièmement, lorsque nous aurons des institutions légitimes, nous pourrons alors mettre en place une vraie armée nationale, non au service de particuliers, une police nationale, professionnelle, des services de renseignement qui ne perdent pas leur temps à traquer les opposants, mais qui ne sont pas capables de découvrir où se cache le Mwanda Semi, ou alors il est caché dans leurs installations. Mais on ne peut pas comprendre que depuis plus de 10 ans, et pour les cas en espèce, qu'on ne sache pas nous dire qu'est-ce qui se passe au Kasaï, qu'on ne sache pas nous dire qui a cassé la prison.
Les enquêtes sont en cours.
Ouais, c'est toujours en cours. Il n'y a jamais eu de. Il parle de communication médiatique. Non. Aujourd'hui, madame, la redevabilité publique, c'est un principe. Lorsqu'il y a attentat à Paris, il essaie, le procureur communique en temps réel. Lorsqu'on entre dans un régime de type dictatorial, là, on est dans l'opacité. Malheureusement, c'est là où nous sommes maintenant.
Alors, le monsieur Atundu a dit tout à l'heure qu'il ne faut pas donner l'impression que l'État a abandonné sa population.
Comment mais vous ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Madame, vous avez vu les images du marché. Vous vous imaginez, et vous avez dit, ou votre reporter, 40 minutes après les événements, les policiers et la dame qui est morte ont été transportés dans ce qu'on appelle le pousse-pousse par des citoyens. Donc dans cette ville, il n'y a pas d'ambulance publique. C'est terrible, madame, comme image que nous lançons. Je prends encore un autre exemple. Les Congolais qui sont au Kasaï sont dans les forêts. J'ai lu le rapport du Haut-Commissaire pour les réfugiés. Ces gens-là sont abandonnés. Il n'y a aucun mécanisme de soutien humanitaire à ces femmes, à ces enfants qui errent dans les forêts depuis plus de deux mois.
Merci.
Alors vous me parlez de quel état?
Merci, professeur Njoli. André Alatoun, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Lubero au Nord Kivu.
Jean de Dieu Moutainga, depuis Kirumba, en territoire de Lubero. Quatre attaques qui sont encore opérées dans la capitale congolaise à l'espace de deux mois. Parce que chez nous, au Nord Kivu, les attaques ne nous étonnent plus. Ce pays n'est pas un héritage laissé à la majorité qui veut s'éterniser au pouvoir alors qu'elle a montré ses limites pour diriger ce pays. Le peuple va se libérer.
La majorité a montré ses limites pour diriger ce pays, M. Atundu.
C'est une confusion entre une situation sécuritaire qui représente un défi national et une aspiration, je dirais même une ambition de changer de régime dans un contexte qui n'est pas encore là.
Parce que vous n'arrivez pas à sécuriser la population. Vous avez parlé du Nord Kivu, des améliorations du Nord Kivu. C'est un citoyen du Nord Kivu qui nous appelle pour nous dire
un citoyen du Nord Kivu sur combien de citoyens du Nord Kivu? Et à son avis, il n'y a aucune amélioration entre ce qui se passait il y a deux ans et maintenant? Non. Sachant raison garder en toutes circonstances, comme on dit. Parce que j'ai entendu ici que les attaques sont le fait de l'illégitimité après l'échéance du mandat. C'est faux. Historiquement, c'est faux. Les attaques du Kivu, etc., c'est bien avant. Bien avant même l'arrivée du FDL. De l'AFDL. Donc ça, c'est... Ne faisons pas de mélange inutile. On parle d'attaques folkloriques alors qu'il y a morts d'hommes. Mais c'est révoltant. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un couteau que vous pensez que c'est folklorique. Essayez donc d'avoir ce couteau en Israël si vous ne serez pas immédiatement abattu. L'analyste expose, il dit que...
Mais ça n'a pas été fait ici, on a vu des gens entrer au grand marché avec des machettes, alors qu'on a la police au grand marché.
Oui.
Pourquoi on n'avait pas arrivé à maîtriser ces gens-là?
Oui, mais je dis que c'est une situation non conforme. Et même dans les pays où il y a des policiers comme ça, comme en Israël, ou en France aujourd'hui, en état d'exception, mais ces cas-là arrivent, madame.
Ils arrivent, ils commettent leur forfait et ils repartent tranquillement.
Ben oui.
Le secours arrive, renfort arrive.
Ah oui, ils repartent et les recherches continuent et les retrouvent. Bon, l'analyste...
Ils ont été retrouvés?
On va les retrouver.
Okay.
On va les retrouver. Personne n'a dit qu'on a abandonné les recherches. Le rythme des recherches ne correspond pas au rythme de la curiosité médiatique. L'analyste a dit que ce régime est à la fin, etc. Mais je pense que ce que nous attendons d'un analyste, ce n'est pas d'exposer sa préférence idéologique par rapport à ce régime, c'est de nous éclairer en tenant les deux côtés qu'est-ce qu'il y a exactement. Un analyste, c'est ce qu'on dit une église au milieu du village. Et ici, c'est vraiment une barque... de la même berge que l'opposition. Alors, vous transformez la situation politique en situation militaire. Je crois que notre analyste a une vue étriquée sur la situation. S'il avait su que l'évolution de la situation au Kasaï, l'évolution positive, était due au fait que le vice-premier ministre a privilégié la démarche politique à la situation militaire, il n'aurait pas pu tenir de tels propos. Alors, qui les tiennent? Est-ce de mauvaise foi? Est-ce par méconnaissance? Est-ce par ignorance? On vient ici...
Mais dialogue, on a utilisé la force. On a commencé par utiliser la force.
Oui, monsieur, madame. Parce que dans ce genre de situation, c'est le bâton et la carotte. C'est le bâton et la carotte, c'est connu. Pourquoi on a les armes? N'est-ce pas? C'est pour stabiliser la situation et amener le dialogue pour favoriser la normalisation. Ici, on parle de la Ligue des Jeunes. Mais la Ligue des Jeunes, c'est un communiqué d'abord. C'est un communiqué de condoléance à ce qui est arrivé ici et ailleurs. Et déplorer le fait que personne de l'opposition, personne n'a émis un quelconque message de compassion vis-à-vis de ces gens-là.
Et pas comme, seulement de l'opposition, et comme, la majorité aussi.
Mais la Ligue des Jeunes est la majorité. La Ligue des Jeunes, je vous rappelle, c'est la Ligue des Jeunes du PPRD.
Le gouvernement
c'est de la majorité.
N'a fait aucun communiqué.
C'est de la majorité, vous avez parlé de la majorité.
La Ligue c'est de la majorité. Remplace le gouvernement.
Bon, alors, la Ligue des Jeunes, le président Kanga, réfléchit, comme tous les hommes politiques, face à ce défi national. Certains ont parlé et n'ont pas renoncé à leur projet d'instaurer un régime d'exception dont ils prendraient la tête. D'autres parlent de transition. Lui, en tant que citoyen libre, il dit ben, « Pour moi, je pense que ça pourrait être le régime d'exception. » Quoi. Mais alors, je ne comprends pas cette susceptibilité fébrile vis-à-vis de quelqu'un qui s'exprime en toute liberté.
En demandant à ses complices de décréter un état d'urgence, est-ce que ça signifie pas que les services ont failli quand même?
Ça ne signifie rien du tout. Ce sont des propositions que tout compatriote peut faire pour contribuer à la normalisation de la situation.
Merci beaucoup, Monsieur Atundu. On vous redonne la parole tout à l'heure. Monsieur Kongolo, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Bukavu, Sud-Kivu.
Je suis à Kouliou Chevariste depuis Bukavu, province du Sud-Kivu. C'est quelques assaillants annoncés maîtrisés par la police nationale, souvent après chaque attaque, ne sont-ils pas écoutés par les services compétents pour que, en l'espace de 2 mois, un gouvernement qui se veut redevable auprès de la population puisse continuer à lui parler des hommes non formellement identifiés? Ou bien, ces attaques ne sont-elles pas qu'une chasse gardée du régime en place pour justifier le rebondissement éventuel de l'état d'urgence en vue de briller complètement l'espoir de la tenue des élections au pays?
Monsieur Kongolo.
Bien, je crois que nous sommes dans une même pensée, parce qu'il a confirmé pratiquement ce que je venais de dire tout à l'heure, qui n'a pas plu à l'honorat, à monsieur Atundu. À propos du renseignement, nous avons un service de renseignement de constat. On constate qu'il y a eu ça, qu'il y a eu ça, et il n'y a jamais eu de suite. Je me rappelle, on a fait des petites statistiques, depuis l'insurrection de monsieur Lengue, je crois que c'était un colonel, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de résultat dans les enquêtes, ici chez nous. Nous savons, ce n'est pas à moi de le justifier devant le public, ils le savent et ils le disent. Donc, nous avons un service de renseignement, de constat. On constate qu'il y a eu des gars, et puis... il n'y a pas de résultat par la suite. On est en enquête, 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 éternellement. Comme en justice, tout peut se justifier. Écoutez, on est en cours, et ainsi de suite. C'est tout à fait normal. Mais je pense que ça soit en France, parce que M. Atundu a fait allusion pratiquement à la France, c'est dans les 48 heures que la France a donné les pistes et les premiers éléments d'enquête pour montrer l'empressement, pour montrer à la population que nous sommes sur le terrain. Ici, chez nous, ça ne se fait pas. Nous ne demandons pas de faire des sorties médiatiques, non. Deuxièmement, M. Atundu a parlé du folklore. Comment des gens peuvent passer en file, en plein marché, en pleine journée, tranquillisant la population pour leur dire « Soyez tranquilles, ce n'est pas vous que nous sommes venus chercher, nous sommes venus pour autre chose. » Ils passent tranquillement, les jeunes gens applaudissent, c'est fétif, c'est festif. C'est inconcevable qu'en pleine journée, qu'une police qui existe, qui est partout, sur tous les magasins, sur le commerce, il y a des policiers. À l'intérieur, il y a des policiers. On n'a pas su arrêter ces gens. Et ils entrent calmement, ils tuent, ils sortent. Vous comprenez? C'est festif. Et les gens applaudissaient. Quand ils passaient, les gens applaudissaient et tout ça. Et là, il n'y a que la police qui ne pouvait pas être au courant de ce qui s'est passé dans ce marché. Et ça, c'est vraiment festif et folklorique. Comment vous pouvez expliquer ça? Un monsieur était à Bandal quand il y a eu évasion à la prison de Makala. Il dit qu'on croyait que c'était les gens qui quittaient le stade. N'est-ce pas? 3 000 personnes sur la chaussée, madame. Quelle que soit l'heure. 3 000 personnes sur la chaussée, c'est festif, les gens quittent. Eh bien, on ne s'est pas demandé qui sont-ils, d'où viennent-ils, pourquoi, ainsi de suite. Et la police viendra le matin pour venir constater. Donc, nous avons ces vidéos anciennement des constats et une police qui subit au lieu. Il n'y a pas d'anticipation dans cette police. Donc, nous comprenons qu'il y a encore des problèmes au niveau, n'est-ce pas, de la réforme. Deuxièmement, madame, il faut dire les choses telles qu'elles se trouvent. Après le 19 décembre, on a commencé à assister à tout ce que nous déplorons aujourd'hui. on a commencé à déplorer. Comment vous allez dire? Comment vous allez expliquer ça? Enfin, une étude simple, ici à Kinshasa en particulier, on n'a jamais connu tout ce qu'on a connu ici. Et c'est pas seulement aujourd'hui. C'est plus de 10-15 ans, on n'a jamais connu ce qu'on a vu ici. En dehors de Mukungu Bila ou tout ça qui a tenté, n'est-ce pas, de récupérer la... Donc, ça montre bien qu'il y a relâchement de l'autorité de l'État. Quand ceux qui sont censés incarner l'autorité de l'État, n'est-ce pas, ont perdu la légitimité, eh ben, il y a un relâchement de l'autorité. Et ça, ça s'explique même dans un foyer. Quand papa n'est plus à mesure, n'est-ce pas, de faire quelque chose, il y a un relâchement de l'autorité. Effectivement, ça se vérifie. Ça s'explique. C'est comme ça que deux, trois personnes peuvent aussi, n'est-ce pas, s'organiser pour aller attaquer un policier et lui tuer. Voilà. Donc, il y a un fléchissement, n'est-ce pas, de l'autorité de l'État. Troisièmement, tout ce que nous vivons, ce sont les maladies convulsives de la classe politique. Le mal est à la tête, le mal n'est pas à la base. Il est à la tête. C'est pourquoi j'ai dit que ce sont des maladies convulsives de la classe politique, qui a perdu le sens de l'équilibre. Voyez-vous? Et parce qu'on veut se maintenir absolument au pouvoir, eh ben, les autres veulent absolument accéder au pouvoir. Ce choc nous produit tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, dire que ce n'est pas ça, et ainsi de suite, et tout ça, j'aimerais bien avoir des analyses un peu plus concrètes, mais sinon, pour un observateur attitré, il est bien clair que la situation se rapproche effectivement, n'est-ce pas, de cette analyse.
Merci Joseph Kongolo, professeur Jacques Njoli. On a suivi Monsieur Atundu tout à l'heure qui a rejeté carrément votre argumentaire tout à l'heure en disant que c'est à cause de l'illégitimité des institutions actuelles qu'on assiste à ce genre de situation.
Mais je suis heureux d'être en face avec Monsieur Atundu parce qu'il dit que le phénomène de désordre dans les Kivu, de la violence, date de la Dwafdel. Mais il sait que les désordres du Kivu sont consécutifs à la fin du régime Mobutu. C'est lorsque le régime Mobutu est rongé, sclérosé dès l'intérieur, et que Mobutu lui-même n'est plus capable d'assurer ce qu'il y avait comme leitmotiv, l'intégrité du territoire, que la situation commence à se détériorer, et nous avons l'apparition de Mai Mai, l'arrivée de FDLR, donc l'armée rwandaise, et que nous ne savons plus contrôler les Kivu. Donc, chaque fois que le centre politique perd sa légitimité, mais sur l'espace, il y a détérioration de termes politiques et création de foyers de tension, de violence incontrôlée. C'est la déliquescence de l'État consécutive, n'est-ce pas, à la faiblesse de la puissance publique.
Alors, professeur, vous allez conclure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de situation
Madame, il faut rentrer à la base. C'est le centre nerveux du pouvoir que le politique. Et là, aujourd'hui, il faut rentrer dans la recherche de la légitimité à travers le respect de l'accord du 31 décembre.
Merci.
Qui nous a donné un cadre minimum pour avancer et qui va nous amener aux
merci
élections par un professeur calendrier électoral
merci
consensuel.
Merci professeur Njoli. Monsieur Atundu, votre conclusion, que faire pour éviter ce genre de situation?
Il faut être patriote. Il faut que tout le monde contribue, sente que la sécurité est une préoccupation nationale. Il ne suffit pas de critiquer, il faut proposer et participer. Mais je voudrais noter quand même que l'objet des interventions de notre analyste, du professeur, mais ça sert une même cause. C'est étouffer les efforts, les sacrifices, les réussites de nos policiers pour crédibiliser leur projet de prise de pouvoir par des moyens non démocratiques. Alors, quand on dit que depuis Ling, il n'y a pas de résultat, je me, quand même de, me permets de signaler qu'il y a eu un procès de deux experts assassinés.
Merci, Monsieur Atundu. Joseph Kongolo, votre conclusion.
Bien, je crois que pour revenir à la normalité, il faut retourner au plan minima, n'est-ce pas, de retour, de plan de sortie, de crise. Je crois qu'il peut nous remettre sur les rails pour pouvoir aboutir, n'est-ce pas, à la gouvernance, enfin, qu'est-ce que je voulais dire, au changement, n'est-ce pas, politique de manière démocratique.
Merci beaucoup, Monsieur Kongolo. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.
Radio Kapi